Vous écoutez On lit pour vous.
Le destin brisé de Notre-Dame-Est, un dossier de Maxime Bergeron, paru le 14 juillet 2026 dans la presse. Un sondage récent l'a encore une fois confirmé, la rue Notre-Dame-Est est la pire route du Grand Montréal. Avec ses milliers de nids de poules, son offre de transport collectif famélique et ses campements de sans-abri qui s'étirent sur des kilomètres, l'artère affiche aujourd'hui des allures post-apocalyptiques, écrit notre chroniqueur, le résultat de décennies de promesses brisées. Premier texte, peur et dégoût, rue Notre-Dame. On va faire Moïse et la séparation des eaux. Jean-Marie Dufresne m'a lancé cette phrase pendant une virée dans son ambulance au printemps 2025. On venait de déboucher dans la rue Notre-Dame-Est, près de Pie-Neuf, quand l'appel est entré. Coup de feu au Vieux-Port. L'urgence était absolue, mais, comme d'habitude, rien ne bougeait dans l'artère qui longe les installations du port de Montréal. Pare-choc à pare-choc. Malgré sa sirène et ses gyrophares, l'ambulancier a été incapable de se faufiler entre les véhicules bien cordés. Il a dû zigzaguer dans les voies en direction inverse pour nous extirper du bouchon. Chaque trou dans la chaussée a fait couiner sa suspension de façon inquiétante. Il n'y a pas eu de miracle ce jour-là, mais la rue Notre-Dame-Est en aurait bien besoin, tellement sa situation est rendue désespérante. L'artère a reçu le titre peu enviable de pire rue de la métropole, selon un sondage réalisé par CAA Québec. Entre ses nids de poules géants, ses crevasses abyssales et sa chaussée décrépite, elle ressemble par endroits à une zone bombardée. Ma seule surprise est qu'elle ne remporte pas la palme pour tout le Québec. Elle arrive au 11e rang provincial. Les campements de personnes itinérantes qui en serpentent le versant nord sur des kilomètres ajoutent à son ambiance de fin du monde. Quant au fleuve Saint-Laurent, du côté sud, il faut être chanceux pour l'apercevoir. Les installations gigantesques du port de Montréal bloquent la vue tout du long, ou presque. Cette rue n'en est pas vraiment une, en fin de compte. C'est une semi-autoroute ou un demi-boulevard à la personnalité schizophrénique. La mairesse, Soraya Martinez-Ferrada, a braqué les projecteurs sur l'état pitoyable de Notre-Dame-Est l'hiver dernier. Elle y a subi deux crevaisons coup sur coup en roulant dans des nids de poules. Sa sortie sur les réseaux sociaux a déclenché une mini-crise médiatique et une opération de colmatage d'urgence. J'ai parcouru plusieurs fois la rue d'ouest en est ces dernières semaines à partir de l'hôtel de ville, dans le Vieux-Montréal, jusqu'à la plage de l'Est, à son extrême pointe, un trajet de 24 kilomètres qui prend environ une heure en voiture. Des centaines de patchs de bitume ont été posés par-dessus les nids de poules, c'est vrai. La conduite y est un brin moins apeurante qu'au printemps 2026. Mais l'état général de la chaussée demeure lamentable. La rue Notre-Dame-Est aurait pu connaître un sort différent. L'artère a fait l'objet d'au moins une demi-douzaine de projets de modernisation depuis 50 ans. Des dizaines de millions de dollars ont été engloutis dans des études de toutes sortes. Mais à ce jour, en juillet 2026, rien de concret n'est sur la table. Ce fiasco social et urbanistique est le résultat de décennies de promesses brisées. La rue Notre-Dame a des origines nobles. Elle fait partie intégrante du Chemin du Roi, la première route de la Nouvelle-France aménagée entre Montréal et la côte de Beaupré, sur la rive nord du Saint-Laurent, à l'est de Québec. Au 19e siècle, les élites économiques de Montréal, surtout francophones, y ont érigé des manoirs somptueux où ils venaient se ressourcer au grand air l'été. Les images d'époque de ces domaines, comme la Villa Rêverie et la maison Gédéon Leroux, semblent venir d'un autre monde. La montée de Montréal comme puissance industrielle est venue gruger peu à peu ce patrimoine dans l'Est, entre la rue Notre-Dame et le fleuve. Les villas ont peu à peu cédé la place aux installations du port et à d'immenses bâtiments comme la raffinerie de sucre L'Antique, Angle Pineuf. Le tramway qui sillonnait Notre-Dame a disparu à partir des années 1930. Puis l'automobile s'est imposée comme mode de transport privilégié dans les années 1950 et 1960. Avec l'orgie de construction d'autoroutes qu'on connaît, Métropolitaine, Ville-Marie, Descaries, Bonaventure. La rue Notre-Dame se voulait le prolongement logique de Ville-Marie, qui traverse le centre-ville de Montréal dans une tranchée et un tunnel. Les grands plans envisagés par le gouvernement de l'époque, qui voulait réaliser ce prolongement, sont venus sceller le sort de l'artère. Les béliers mécaniques ont rasé environ 1200 résidences le long de Notre-Dame au début des années 1970, une vraie scène de désolation. Les quartiers résidentiels démolis entre le pont Jacques-Cartier et l'autoroute 25, qui mène au tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, ont été remplacés par une longue bande végétale, occupée à la fois par les joggeurs, les cyclistes et les campements de personnes itinérantes. L'administration de Soraya Martinez-Ferrada injectera quelques millions pour continuer de colmater les nids de poules et resurfacer Notre-Dame-Est, m'a confirmé son cabinet. Ce sera déjà ça de prix pour les dizaines de milliers d'automobilistes et de camionneurs qui empruntent cette voie chaque jour. Le gouvernement caquiste dévoilera pour sa part prochainement les résultats d'un appel d'intérêt concernant un éventuel projet de transport collectif dans l'est de la ville. La dernière mouture proposée s'élevait à 18,6 milliards de dollars, somme que Québec ne semble pas prêt à investir. Elle viendra absorber une partie du trafic de l'autoroute métropolitaine, plus au nord, pendant sa reconstruction qui durera entre 6 et 12 ans. L'apaisement, rue Notre-Dame-Est, n'est pas pour bientôt. Vous écoutez « Le destin brisé de Notre-Dame-Est », un dossier de Maxime Bergeron, paru le 14 juillet 2026, dans la presse. Deuxième texte, « 1000 promesses, 1000 déceptions ». Des idées de grandeur, des tonnes de promesses, et tout autant de trahisons, la rue Notre-Dame est au cœur de batailles politiques depuis un demi-siècle. Des milliers de familles ont été déplacées pour faire place au progrès le long de cette artère névralgique. Et des dizaines de millions de dollars ont été engloutis en études de toutes sortes. En vain, la rue n'a jamais eu aussi mauvaise mine. 1972. La démolition de 1200 résidences bat son plein le long de la rue Notre-Dame-Est pour faire place à un projet autoroutier qui n'a finalement jamais vu le jour. Modernité, la construction de l'autoroute Ville-Marie et de la maison de Radio-Canada au pied du pont Jacques-Cartier ont entraîné la destruction du faubourg Amelas. Ce quartier populaire a cédé la voie à ce qui était perçu comme le symbole ultime de la modernité dans les années 1960. Le bitume. L'étape suivante, pour le gouvernement de l'époque, était d'étendre l'autoroute Ville-Marie plus à l'est, dans l'emprise de la rue Notre-Dame. 1977. L'idée n'était pas farfelue. En prolongeant Ville-Marie vers l'est, les autorités souhaitaient créer une boucle autour du centre de Montréal. Cette nouvelle voie se serait ainsi connectée à l'autoroute 25 à l'est, puis à la métropolitaine au nord et enfin à Descaries à l'ouest. Mais deux facteurs sont venus contrecarrer ces plans. Un mouvement de contestation populaire a émergé dans les quartiers de l'est, comme Hochelaga-Maisonneuve. Et le Parti québécois a pris le pouvoir en 1976. Le gouvernement de René Lévesque a décrété un moratoire sur la construction d'autoroutes en 1977. Des expropriés, puis des sans-abri. Moratoire ou pas, le mal était fait. Quelques 1200 résidences et une centaine d'immeubles commerciaux ou institutionnels avaient déjà été rasés pour faire place à la nouvelle autoroute. Environ 5000 personnes ont dû être relogées dans la foulée. De ce projet avorté est restée une longue bande en friche le long de la rue Notre-Dame-Est, éclatante de verdure. Elle accueille un campement de sans-abri de plusieurs kilomètres qui grossit depuis quelques années. Résurrection. L'idée de moderniser Notre-Dame n'est jamais morte. Au début de l'an 2000, le ministère des Transports du Québec, MTQ, présente un projet aussi majeur que choquant. Transformer la rue en autoroute, en tranchée à six voies, semblable à l'autoroute Descaries. Le chantier de 165 millions de dollars serait achevé en 2005, prévoyait-on. 2002-2005. Même si elle avait ses adeptes, la proposition s'est heurtée à un mur. Les consultations du Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAP. Une démolition du projet en bonne et due forme. Gérald Tremblay, tout juste élu maire de Montréal, a proposé de plutôt transformer Notre-Dame en boulevard urbain de 8 voies. Une sorte d'autoroute à temps partiel dont les feux de circulation resteraient au vert en heure de pointe. Le projet, maintenant évalué à 750 millions, est approuvé en 2005 par le gouvernement de Jean Charest. Facture salée, projet bloqué. Surprise, le projet prend du retard. La facture explose. En 2009, les estimations oscillent entre 1,2 et 1,5 milliard de dollars. La ministre libérale Julie Boulay demande une révision du budget. En vain. Le projet est abandonné l'année suivante. Les études réalisées pendant les années précédentes, au coût de 60 millions, sont tablettées. Des citoyens pénalisés. Les Montréalais qui habitent dans l'Est, un demi-million de personnes, pâtissent des tergiversations autour de la rue Notre-Dame. L'une des principales conséquences est la desserte famélique en transport collectif. Ces citoyens sont toujours condamnés à utiliser l'automobile ou à faire un périple interminable entre le bus et le métro. On les a pourtant fait rêver. Plusieurs projets ont été proposés au fil des décennies, comme des réseaux de bus rapides, un train léger automatisé, le REM de l'Est, ou encore un tramway. Mais tous ont à choper. L'un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a décidé de politiser les projets de transport en commun au Québec, m'a fait valoir Pierre Barriot, expert en planification des transports. Il a raison. Et ensuite, dès l'annonce de sa campagne à la mairie, Soraya Martinez-Ferrada a promis de se battre pour développer l'est de Montréal, y compris la rue Notre-Dame. Son administration a débloqué quelques millions pour le resurfaçage de la chaussée, mais aucune autre annonce concrète n'a été faite. Québec veut pour sa part construire un projet structurant de transport collectif dans l'Est qui pourrait prendre la forme d'une ligne de tramway ou d'un réseau de voies réservé aux autobus. Les résultats d'un appel d'intérêt seront dévoilés sous peu. Un grand déblocage, enfin. Les finances publiques sont dans le rouge et le gouvernement risque de changer au terme des élections d'octobre 2026. Le flou risque de durer. C'était Le destin brisé de Notre-Dame-Est, un dossier de Maxime Bergeron, paru le 14 juillet 2026 dans La Presse.
Québec, nouvelle capitale de la biodiversité. Un texte d'Ariane Godbout, paru le 6 juillet 2026 dans Le Devoir. Des grands terrains, la maison unifamiliale, un garage double avec la piscine en arrière. Peut-être que ce modèle-là, dans les prochains développements, ça ne sera plus possible. Pour Marie-Josée Asselin, élue responsable de l'environnement à la Ville de Québec, le modèle d'urbanisation qui a longtemps été celui de Québec est appelé à se transformer dans les prochaines années. Maintenant que la ville a obtenu le statut de région biosphère de l'UNESCO, les élus sont plus que jamais résolus à poursuivre la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la biodiversité. Le plan, annoncé en juin 2025, prévoit notamment d'accroître la superficie des milieux naturels visés par une mesure de conservation de 33,5% à 40% d'ici 2040, une mesure qui doit passer par le maintien du périmètre d'urbanisation actuel et la densification urbaine. Il y a de la résistance, souligne un an plus tard Mme Asselin, qui est aussi vice-présidente du comité exécutif de la ville. Mais on sent que les gens comprennent de mieux en mieux notre effort d'expliquer que l'étalement urbain, ce n'est pas la solution. Pour Alain Branchaud, directeur de la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs du Canada, la stratégie de Québec témoigne d'un travail à la fois rigoureux et ambitieux. Il y a vraiment des éléments audacieux, dit-il réjoui. Le scientifique cite en exemple l'objectif 4 de la stratégie. Cultiver l'amour de la nature. C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire. Pourtant, on ne le voit pas souvent énoncé de manière aussi claire. Selon lui, les gens sont encore trop déconnectés de leur environnement. Favoriser l'implication citoyenne. Comment, justement, susciter cet amour de la nature. Depuis 2 ans, Québec appuie financièrement les initiatives citoyennes. Les 30 conseils de quartier sur le territoire de la ville bénéficient désormais d'une enveloppe de 4 000 $ chacun pour réaliser un projet très local de biodiversité. Dans mon district, Loretteville et Châtel, ça a été un projet autour de la protection d'une espèce de chauve-souris qui a été découverte dans un hangar à bateaux et qui est en voie de disparition, explique Marie-Josée Asselin. La communauté Wendat, juste à côté, a eu de l'intérêt et c'est ensuite devenu un projet collectif. À Beauport, on a distribué gratuitement des ampoules extérieures adaptées pour atténuer les effets de la trop grande luminosité sur les insectes. Dans un autre quartier, on a privilégié des plantations devant une école primaire. Chaque quartier a sa couleur, précise l'élu. La biodiversité, ce n'est pas la même chose dans le Vieux-Québec que dans Loretteville. Un aspect qui la rend particulièrement fière concerne l'implication de la communauté autochtone de Québec dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie municipale. La nation Wendat est dans le coup, des Innus aussi. Les communautés Essipit et Mastoyast, entre autres, ont été consultées sur leur connaissance de l'histoire du territoire. Et la ville, de son côté, a-t-elle entrepris des mesures de protection de la biodiversité depuis l'année dernière? L'élu cite comme exemple une bonne vieille cour à scrap au nord de la ville, près du lac Saint-Charles. Un site détruit, dévitalisé et contaminé aux hydrocarbures. La ville a acheté le terrain il y a 2 ans et demi environ. On a procédé à la décontamination et là, on est en train de faire un projet de restauration des milieux humides, de recréer totalement le milieu naturel. L'objectif, protéger la biodiversité, certes, mais aussi redonner accès au site pour la population. Rappelons que Québec est la seule ville au monde dont le territoire entier a été nommé réserve biosphère par l'UNESCO. Il s'agit certes d'un honneur, mais aussi d'une invitation à trouver de nouvelles manières de reconnecter l'humain avec son environnement. Conserver, protéger et connecter. Aux yeux de Marie-Josée Asselin, conserver 40% du territoire de la ville ne signifie pas pour autant mettre Québec sous une cloche de verre. Actuellement, on a 33,5% d'air conservé et 3,3% d'air protégé. Protégé, ça veut dire des activités à très faible impact. À la limite, il pourrait y avoir de la marche, du ski de fond, mais pas de vélo. La conservation vise davantage à favoriser les activités humaines, mais en utilisation durable du territoire, comme aménager un parc municipal au milieu d'un quartier, ou tracer des pistes de vélo de montagne. Québec se montre néanmoins ambitieuse par rapport à la superficie d'air protégé, qu'elle compte faire passer de 3,3% à 10% d'ici 2040. À cette date, tous les grands noyaux de biodiversité sur le territoire de la ville sont reliés par des corridors écologiques, peut-on lire dans la stratégie. Pourquoi? Pour permettre aux espèces fauniques de se déplacer d'un milieu à l'autre. Mais quand on constate le nombre d'autoroutes qui quadrillent la vieille capitale, on peut néanmoins s'interroger sur la capacité du raton laveur de 2040 à déménager des plaines d'Abraham au domaine de Mézeray sans risquer de passer sous les roues d'une voiture électrique. Ce n'est pas toujours évident, concède Mme Asselin, mais elle cite comme exemple les lignes à haute tension d'Hydro-Québec, sous lesquelles il n'y a jamais rien de construit et qui cheminent un peu partout sur le territoire. Plutôt que de couper tous les végétaux poussant sous les fils électriques, comme il était d'usage, la ville laisse désormais la nature y reprendre ses droits, tout en maintenant accessibles les infrastructures névralgiques. En langage scientifique, cette approche s'appelle la gestion différenciée. Ça, c'est vraiment cool, souligne enthousiaste Alain Branchaud. C'est gagnant-gagnant parce qu'au final, ça coûte beaucoup moins cher à entretenir, c'est moins de gaz à effet de serre, c'est plus de captation carbone et c'est bon pour la diversité. Membre de l'équipe de Bruno Marchand, Marie-Josée Asselin est-elle certaine que la stratégie pour la biodiversité puisse survivre à l'administration actuelle? Ça va faire partie de la philosophie. Selon elle, la quantité d'acteurs publics et privés déjà engagés rendra la stratégie pérenne. « Il y a assez de remparts dans une ville comme Québec », affirme l'élu. C'était « Québec, nouvelle capitale de la biodiversité », un texte d'Ariane Godbout, paru le 6 juillet 2026 dans Le Devoir.
A-t-on besoin de deux jambes dans l'espace? Un texte de Agence Science Presse paru le 18 juin 2026 dans Science Presse. Avoir ces deux jambes, est-ce vraiment nécessaire dans l'espace? C'est la question insolite que pose l'astronaute britannique John McFall, qui pourrait devenir la première personne physiquement handicapée à se rendre en orbite. McFall, 45 ans, est médecin et ancien athlète paralympique. Il vit aussi avec une prothèse depuis l'âge de 19 ans. Sa jambe droite a été amputée au-dessus du genou. En 2022, il s'est joint au FLY, programme de l'Agence spatiale européenne, spécialement destiné à tester les capacités de personnes handicapées à se rendre en orbite et à y travailler. En février 2025, il est devenu le premier membre de ce programme à passer avec succès l'étape des évaluations médicales qui faisait de lui un candidat possible à un séjour sur la station spatiale. Le 2 juin dernier, le gouvernement britannique annonçait sa sélection comme candidat pour la première mission vers la future station spatiale de la compagnie privée VAST, prévue pour 2027. La question est, avez-vous vraiment besoin de vos deux jambes quand vous êtes en apesanteur? Pose-t-il lui-même comme question en entrevue au magazine Life Sciences. En orbite, lorsqu'on accomplit une tâche avec les mains, tout ce dont il faut s'assurer, c'est d'être attaché à quelque chose pour éviter que le moindre mouvement vous projette dans l'autre direction. Est-ce que d'avoir deux jambes est utile dans des opérations normales d'entretien ou pour se déplacer à l'intérieur d'un véhicule spatial? En théorie, la réponse est négative, puisqu'en apesanteur, même une pression du petit doigt sur une surface suffit pour vous envoyer dans la direction opposée. Se pourrait-il que son handicap soit même un avantage? Nous ne le savons pas, répond-il. Nous pouvons formuler des hypothèses, mais jusqu'à ce que nous allions vraiment dans l'espace et que nous fassions de la science spécifique à mon handicap, nous ne le savons pas. En théorie, toujours, les effets de la microgravité sur les os, ceux-ci ont tendance à perdre de leur masse, peuvent être un avantage chez quelqu'un qui arrive là-haut avec une plus faible masse osseuse. Beaucoup de gens à travers le monde risquent donc d'être très attentifs à la suite de l'histoire de cet astronaute britannique. C'était « A-t-on besoin de deux jambes dans l'espace? » un texte de Agence Science Presse, paru le 18 juin 2026 dans Science Presse.